Bonjour, le jaune aujourd'hui dans Vivre en couleur. Alors, Béatrice, le jaune, il est partout. Tournesol, ambre, soleil, sable, partout, partout, il y a du jaune.
Oui, bonjour Catherine, bonjour à chacun. On va commencer en effet par le jaune parce que, comme vous le dites très bien, le jaune, c'est une couleur vedette. On le voit partout. Et avec le rouge, le noir et le blanc, c'est une des premières couleurs que l'homme a utilisées. Pourquoi ? Parce que ces civilisations anciennes ont toutes adoré le soleil. Elles avaient une grande référence à la nature parce que peut-être que c'était une façon de combattre leur peur, la peur que le ciel leur tombe sur la tête, la peur de la nuit c'était la mort. Et par opposition, le jour c'était la vie et le jour c'est le soleil c'est le jaune. Alors le jaune a toutes les qualités du soleil. C'est le soleil de midi dont on parle bien sûr, c'est le soleil très fort, c'est le soleil, c'est l'éclair, c'est la lumière qui est intense, qui est même violente et quelquefois qui peut être aveuglante. Alors le jaune, il est clair comme la lumière, c'est la plus claire des couleurs en fait. Kandinsky voit une affinité profonde, physique, entre le jaune et le blanc. Le jaune est très visible et encore plus en fluo. Du reste, on l'utilise pour les balles de tennis, pour la sécurité routière.
Alors justement, La Rochelle a choisi le jaune pour mettre en place son nouveau circuit d'autobus, les Yellow Bus. Et puis le club de rugby aussi a choisi le jaune comme couleur. Donc c'est une couleur qu'on voit beaucoup à La Rochelle.
Voilà, voilà, tout à fait, c'est vrai, on la voit partout. Et on a bien su utiliser cette qualité de visibilité du jaune. Le jaune ressort. En fait, hein. Paul Klee, dans sa théorie des couleurs, l'expliquera très bien. Le peintre en fait bon usage en utilisant cette qualité du jaune à ressortir. C'est-à-dire que si le peintre figure un horizon en jaune fluo, on va avoir du mal à concevoir qu'il est lointain. Par contre, si au sol, il figure une couleur assez jaune, elle va nous jaillir aux yeux et elle vient forcément en premier plan. Alors ce jaune, il est clair, on dit, mais il est chaud comme le soleil, parce que ce soleil, c'est lui qui permet la vie, qui fait croître tous les végétaux. Il permet aussi la renaissance des saisons. Alors il est très joyeux, c'est la couleur du bonheur en fait, hein, de l'imagination. Quand on va dans les agences de voyage, on voit souvent du jaune en décoration. Et puis aussi, ce jaune a une grande valeur, c'est la loyauté, la grandeur. On se souvient du maillot jaune, c'est l'ambition d'une maîtrise de soi.
Alors justement, le jaune figure dans les couleurs du Vatican et vous mettez ça en rapport avec la foi, l'éternité.
Oui, c'est-à-dire que là, il faut préciser que dire que le jaune, c'est le soleil, c'est dire aussi que le jaune, c'est l'or. Parce que l'or, c'est une variante du soleil et tous les deux seront très longtemps associés. Ce qui veut dire que ce jaune n'est pas mat, mais là, le jaune dont on parle est brillant, du reste en perçant. Le mot safran, qui est une des meilleures teintures jaunes, veut dire or. Et en effet, c'est la couleur de l'éternité, de la foi. Dans le drapeau du Vatican, en effet, le jaune et le blanc donnent les tonalités aux insignes de la papauté, la tiare à trois couronnes et les deux clés d'or.
Alors, les Espagnols, qui se vantent d'être toujours très proches du Vatican, les fidèles serviteurs du Vatican, disent en riant que le Vatican a choisi les couleurs de l'œuf au plat et eux, dans leur drapeau, on choisit les couleurs de l'œuf à la tomate. C'est un rapprochement amusant.
Oui, c'est très drôle, c'est très drôle. Eh ben, on peut aussi se rappeler que Bernadette de Soubirous a vu la Vierge habillée de blanc, avec une robe blanche et une ceinture bleue, et avec une fleur jaune.
Oui, à ce moment-là, elle ne savait pas encore que si c'était la Vierge, elle l'appelait la Dame. Oui. Et la Dame avait une fleur jaune, effectivement. Oui.
Voilà. Alors ce jaune, donc, c'est vraiment le véhicule de la jeunesse, de la force, de la prospérité, du pouvoir, de la richesse. Et comme meilleur exemple, on ne peut pas donner autre chose que celui de l'Égypte, pour qui l'astre solaire est un véhicule indispensable à la Renaissance. Le safran teinte les bandelettes des momies et ses étoffes. Et j'ai envie d'évoquer aussi Ra, le dieu soleil, qui bénit la terre de son sperme solaire. Le sperme solaire étant les rayons du soleil. Donc moi, je trouve que quand on se rappelle de ça, on ne voit plus le soleil de la même façon.
C'est un très beau symbole de la fécondité, ce que vous évoquez. Et c'est vrai qu'avec le jaune et le soleil, on s'éloigne des ténèbres qui font peur. faire.
Oui, oui, oui. Alors là, effectivement, on est dans des valeurs du jaune très masculines. Hein. Il y a d'autres références à connotation masculine qui corrobore cet aspect très énergétisant du jaune, qui redonne de la vie. On peut citer le citron qui est acide et vif, et les épices aussi comme le safran, le curry, le curcuma, qui parfument et qui réveillent aussi.
Le jaune a même une odeur quand on vous écoute. C'est fascinant, finalement. Les couleurs ont une odeur.
Alors là, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'au début des récoltes, on est envahi par le colza avec le jaune, et à la fin, on est envahi toujours par le jaune avec le tournesol. Prenez le temps de vous balader dans les champs. Bon, peut-être pas au milieu, les cultivateurs ne seront pas contents, mais on va en dire. Et c'est délicieusement parfumé, c'est vrai.
Alors, de cette couleur, vous avez déjà exploré un peu le symbole de la fertilité, mais vous dites aussi que c'est une couleur sacrée pour les couples.
Oui, effectivement, quand on dit que ce jaune évoque la terre fertile, les épis mûrs, l'été, le jaune d'œuf, l'ambre, le miel, on évoque là plutôt le jaune dans son aspect féminin. Et à titre d'exemple, on peut en effet citer la Chine ancienne qui l'utilise pour favoriser la fertilité du couple. Elle teint la gaze et la soie en jaune pour les couvertures et les oreillers de la couche nuptiale, et leurs vêtements aussi. Moi, j'ai envie aussi d'évoquer l'image du miel. Hein. On l'utilise tous quand on est fatigué. On en met un petit peu dans du lait chaud ou dans de l'eau chaude avec du citron. Voilà, pour nous redonner de la vigueur et de la résistance. Et du reste, toute l'histoire du miel est jaune. Depuis les abeilles qui récoltent le pollen jaune, qui fertilisent. Hein. On reste dans la notion de fertilité. Ce sol, puis fabrique la cire jaune. Et le miel qui est tellement jaune que quand on le fait couler devant la lumière, on a l'impression de faire couler de l'or.
C'est ce que vous venez de dire à propos des symboles m'évoque une très très belle histoire d'amour, l'histoire de la princesse de Clèves. Et quand on lit la princesse de Clèves, le jaune joue un rôle symbolique très important, puisque c'est au cours d'un tournoi que le duc de Nemours, qui est amoureux de la princesse de Clèves, va lui révéler son amour en portant justement la couleur jaune. Chaque chevalier porte la couleur de sa belle et lui porte le jaune parce que, dit-il, il a entendu la princesse de Clèves dire que, comme elle était blonde, elle ne portait jamais de jaune. Et ainsi, tout en lui révélant son amour, il garde le secret de cet amour aux yeux du public. Et tout le monde se dit, mais le prince de Nemours est amoureux, mais de qui? De qui?
Oui, oui, alors peut-être qu'elle, ce faisant, elle utilisait aussi, elle voulait croire à la qualité de protection et de confiance que peut évoquer le jaune. On a dit, il est signe d'abondance aussi, avec les récoltes de l'été, on le voit, si où que nous tournions les yeux en ce moment et plus tard, on verra du jaune avec le colza, le maïs, le tournesol, qui est héliotrope, hein, on sait qu'il se tourne vers le soleil, et là aussi, c'est assez joli de penser à cette course-poursuite du tournesol, petit soleil, en quelque sorte, vers son soleil, et qui effectue en permanence, de jour en jour, toujours la même course. Et du reste, de nombreuses fleurs sont jaunes. On aurait du mal à toutes les énumérer, tellement elles sont nombreuses. Hein. Genêt, jonquille, les boutons d'or, les coucous, la camomille, ça pourrait être un jeu, ça. Et effectivement, Catherine, comme vous dites, le jaune évoque cette notion de protection, de confiance, comme couleur féminine. Et là, il faut penser à l'Inde, pour qui c'est une couleur très très importante. Le jaune a vraiment un rôle protecteur. Il est très présent notamment dans la célébration du mariage. Du reste, quand on évoque le mariage, on dit se jaunir les mains. Parce que on enduit la peau des fiancés du pigment que l'on tire du curcuma pour attirer sur eux la richesse, le bonheur, les enfants. Ce qui fait que les femmes célibataires ou les veuves qui passent par là se précipitent et touchent le couple pour attirer, pour bénéficier un peu des bonnes augures qui l'incarnent. Et les présents, de même, et les mets, sont toujours saupoudrés de curcuma. Du reste, en Inde, on peut dire que ces valeurs du jaune sont si ancrées que la plupart des Indiens portent toujours sur eux un petit bout de jaune. Hein.
RCF Charente-Maritime, un programme aux couleurs de la vie.
Alors, pour nos auditeurs qui prennent l'émission en cours de route, je rappelle que nous sommes avec Béatrice Vial-Collet pour parler des couleurs et pour commencer, nous parlons du jaune aujourd'hui. Alors Béatrice, le jaune, comment il se vit dans l'histoire des civilisations? C'est une histoire qui prend ses racines très très loin.
Oui, oui, oui. Effectivement, on comprend que ce jaune est ressenti parce que c'est d'une façon très forte, parce que c'est le soleil. Il est vécu donc de quelle façon? Il faut d'abord se rappeler que ce jaune est important parce que avant tout, la nature nous offre un nombre très important de pigments jaunes et une grande variété. Par exemple, il faut se souvenir que les ocres abondent dès le néolithique et l'homme préhistorique a sa portée de main des argiles ocres. L'histoire de la peinture, en fait, on peut dire, démarre avec quelques poignées d'ocre, de jaune, de charbon, de bois, avec la première caverne en Australie, il y a 50 000 ans à peu près. Et elle se perpétue jusqu'à nos jours, du reste, avec la peinture aborigène. Parce que la terre fournit beaucoup de pigments jaunes. Le curcuma, la goutte, qu'on connaît mieux sous le nom de réséda, le safran, c'est la plus chère. Des épices, on la vend autour de 4000 euros le kilo, parce que le pigment n'est contenu que dans la toute petite partie supérieure du pistil.
Et une chose extraordinaire que vous m'avez révélée, c'est que la plupart des plantes contiennent des pigments qui teignent en jaune. Si on fait bouillir des tissus, par exemple, avec la plupart des plantes, ça devient jaune.
Oui, oui, oui. Faites l'expérience chez vous. Vous prenez un bout de tissu et vous le faites bouillir avec n'importe quoi, des feuilles, des écorces, de l'herbe, des fleurs. Il ressortira toujours jaune. Ça peut être pratique. Enfin, faut faire attention, mais ça peut être pratique. Et du reste, dans la cosmologie mexicaine, le jaune est associé au mystère du renouveau parce que chez eux, c'est la couleur de la peau neuve de la terre au début de la saison des pluies. Alors, comment vit-on? On peut l'illustrer au cours du temps, cette assimilation du jaune au soleil. On la vit avant tout comme la couleur des dieux. Et là, on peut prendre beaucoup d'exemples. Chez les Grecs, Apollon est jaune. Hein. Et dans la Rome antique, le jaune, alors là, c'est vraiment la couleur de la vie. On a adoré le jaune, il évoque la joie. Et il faut dire que ce jaune safran, c'est un raffinement très coûteux. Du coup, il est réservé à la noblesse, aux prêtres. Néron, lui, a de façon maligne cru pouvoir gagner les élections en recouvrant les rues de Rome de safran. Voilà, c'était une façon d'offrir au peuple un peu de ce raffinement coûteux. Alors vous allez me dire, à Rome, on voit beaucoup de grands panneaux, de grands fonds de couleur jaune, donc on l'a bien évidemment pas fait avec le safran. Là, on a utilisé une teinture bien meilleur marché, c'est l'ocre jaune. Et dans l'architecture, les fonds sont couverts d'ocre jaune. Alors, on peut parler en Inde de Vishnu, qui porte des habits jaunes. Ce jaune-là a une valeur très très positive, puisque Vishnu, c'est le deuxième dieu de la trinité hindoue qui incarne l'univers. Et lui, il a le rôle protecteur. Hein, donc, alors que Brahma est le créateur et Shiva le destructeur. Dans le bouddhisme, pareil, les dignitaires sont habillés d'étoffes teintes avec du safran. En Chine, le jaune est très très important. Il a été pendant longtemps réservé à l'empereur, parce que cet empereur, il s'établit au centre de l'univers, comme le soleil lui-même est au centre du ciel.
Alors moi, j'ai une amie qui est chinoise, qui est arrivée en France il y a une douzaine d'années à peu près, et souvent je lui ai posé la question, quand tu es arrivée en France, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Et elle m'a dit, ce qui m'a le plus frappé, c'est la couleur verte de la campagne. Ah, je lui ai dit, mais comment ça se fait? C'est pas comme ça en Chine? Et elle me dit, mais non, en Chine, la campagne est jaune, elle est jaune, profondément jaune. Et moi qui suis de la Chine intérieure, je ne connais pas le vert.
Oui, alors là, on peut trouver une explication facile, qui est assez fascinante, c'est que tous les ans, tout bêtement, la Chine du Nord est recouverte du loess, c'est une roche meuble, très meuble, limoneuse, jaune, qui est amenée par les tempêtes de poussière qui viennent du désert de Gobi. Et du coup, en effet, tout le paysage se retrouve jaune. Bon, il y a d'autres explications à l'importance du jaune en Chine. C'est que ce jaune est central, on le verra quand on parlera de l'univers physique de la couleur. Il est central quand la lumière s'irise. Et ce qui fait que la tradition chinoise l'Église le représente comme la voie du milieu. En tant que telle, elle donne accès à la connaissance totale, à l'illumination, à la lumière divine. Et ce jaune, du reste, occupe toujours une place très importante dans la vie quotidienne. Les temples sont en ocre jaune et ils symbolisent le renoncement au monde, la clairvoyance.
Alors malheureusement, il n'y a pas que des côtés positifs à la couleur jaune et il y a une certaine ambivalence que vous relevez très bien au niveau des symboles, c'est-à-dire que ça n'a pas toujours été une couleur positive. C'est la couleur de la maladie, c'est la couleur de l'automne, c'est la couleur de la trahison. Alors là aussi, il y a quelque chose de bizarre, c'est cette ambivalence du jaune.
Eh oui, on n'a pas encore trouvé de recette hein, pour que les faces soient entièrement blanches. Il a toujours son côté noir. Et là, en l'occurrence, quand le soleil fort de midi est là, à un moment donné, il se penche vers l'horizon et le jaune devient la lumière, le soleil du soir, la lumière du jour qui décline, les feuilles qui meurent, c'est la couleur aussi des vieilles photos, c'est même la couleur de tout ce qui jaunit, c'est-à-dire celle du déclin, de la mélancolie, de l'automne, c'est la couleur de la peau de la terre à l'automne, et puis c'est la nôtre en fait, hein, quand la mort s'approche. C'est aussi la couleur du soufre, de la bile, de l'urine, des choses quand même un peu moins sympathiques que le soleil. Et ce qui fait qu'on la ressent aussi comme la couleur de l'acidité, de la maladie, notamment du foie, on dit avoir le teint jaune. Parce que le bilieux s'entend au sens propre comme au sens figuré du terme, c'est-à-dire c'est celui qui se fait de la bile, qui se fait du souci. On dit rire jaune parce que la bile donne le teint jaune. Et l'expression vient du reste aussi du safran, qui est réputé provoquer une sorte de folie qui déclenche un rire incontrôlable.
Alors ce qui est curieux, c'est que les botanistes qui ont étudié l'histoire de la botanique ont développé la théorie des signes, c'est-à-dire qu'autrefois, dans l'époque pré-scientifique, les plantes jaunes, les fleurs jaunes, le pissenlit, le chélidoine, etc., étaient censées soigner les maladies de foie parce qu'on avait le teint jaune. Donc il y avait une correspondance entre les couleurs et la maladie. C'était une théorie pré-scientifique dont les botanistes aujourd'hui disent qu'elle n'est pas complètement fausse parce que c'est vrai qu'il y a des qualités vraiment anticholagogues des plantes jaunes, par exemple, pour le foie. C'est curieux, cette théorie des signes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut dire aussi que, oui, il y a tout un aspect assez négatif du jaune et le plus important, c'est que ce jaune, du coup, est associé à la traîtrise. Hein, c'est le souffle luciférien, Lucifer qui signifie porteur de lumière, c'est l'archange déchu pour avoir défié Dieu. C'est l'image de l'orgueil qui est associée par la tradition chrétienne à Satan. Alors là, il y a quelque chose d'amusant à constater, c'est que à l'origine, la couleur jaune est celle du trompeur. C'est la couleur des chevaliers félons. C'est celle des banqueroutiers. Au XIVe siècle, on peignait la porte des banqueroutiers en jaune pour que tout le monde, tous les passants, soient bien au courant. C'est le signe du déshonneur. Mais finalement, le langage commun a renversé ce symbole et il a attribué le jaune aux trompés. Et au XIXe siècle, le jaune, finalement, caricature les marées trompées et c'est le fameux jaune cocu.
C'est curieux parce que ça rappelle là aussi la théorie du couple bourreau-victime. On ne sait pas toujours qui est le bourreau et qui est la victime. La victime peut devenir le bourreau peut devenir la victime. C'est une théorie psychologique qui est très importante. Donc peut-être que ce que vous venez de raconter l'illustre parfaitement.
Voilà, c'est vrai, c'est l'ambivalence. Et on va retrouver cette fluctuation de l'ambivalence tout au long de l'histoire. Ce jaune ne sera pas ressenti toujours de façon vraiment positive. Alors au Moyen-Âge, on peut dire que le jaune occidental connaît la désaffection, parce que la couleur dorée absorbe tous les symboles positifs du jaune. Le jaune, lui, se matifie et il devient par opposition une couleur éteinte. Ce jaune est assimilé à un sous-blanc, il devient une couleur triste, celle de la trahison, comme on l'a vu. Et à partir du XIIe siècle, le jaune devient la couleur emblématique de Judas, puis des non-chrétiens. Au XIIIe siècle, les conciles se prononcent contre le mariage entre chrétiens et juifs. Et sous Saint-Louis, ils sont obligés de porter ce fameux chapeau pointu Et en 1215, le concile de Latran leur impose d'arborer sur leurs vêtements la rouelle jaune, qui en fait est l'ancêtre de l'étoile jaune. Alors dès le XIIIe siècle, aussi, le jaune est associé à la folie avec le vert. Les personnages dévalorisés sont très souvent affublés de jaune. Les bouffons, les fous sont habillés de jaune et on pense au fameux nain jaune. À partir de la Renaissance, on va voir que le discrédit du jaune s'atténue, mais en fait, il s'agit de la couleur dorée. Alors, le monde chrétien confirme la référence du jaune au soleil, à la lumière, alors, et c'est la couleur de l'éternité divine. Ce jaune d'or devient sur terre l'attribut de la puissance des rois, des princes et des empereurs pour proclamer leur origine divine du pouvoir. C'est la lumière céleste qui est révélée aux hommes à travers l'éclat du soleil sur la terre.
Alors justement, dans une revue que je viens de recevoir, un jeune homme qui a gagné la bourse de l'aventure chrétienne s'est donné comme but de faire le tour du monde des représentations de la Vierge. Et chaque mois, il publie les photos des vierges qu'il a rencontrées dans son périple. C'est drôle parce que la première vierge qu'il rencontre, c'est au Laos. Et alors, elle n'a pas du tout une robe bleue. Elle est, comme vous dites, jaune or. Elle a une magnifique robe jaune d'or. Et ce n'est pas du tout une image habituelle qu'on a de la Vierge, mais c'est tout à fait ce que vous dites. C'est l'image de la gloire.
Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, bon, on va finir avec une vision quand même positive parce qu'au XIXe siècle, ce jaune sera réhabilité pour plusieurs raisons. D'abord, tout simplement parce que la science et l'imprimerie montrent qu'il y a trois couleurs primaires dont le jaune fait partie et du coup, il se trouve automatiquement valorisé. Alors, les peintres utilisent plus le jaune. Les impressionnistes et les fauves, on le sait, changent de palette. Delaunay et les divisionnistes, Seurat, Signac étudient la dynamique chromatique. On en parlera avec les expériences de Chevreul et l'orphisme. Alors, autre raison, c'est tout bête, mais l'électricité se développe et la lumière devient jaune. Il y a aussi le journal Loto qui est imprimé sur un papier jaunâtre. Elle organise la grande boucle, le maillot jaune, le fameux maillot jaune qui s'étend dans tous les domaines. Et en fait, avoir le maillot jaune veut dire être en tête et ce jaune va rester. C'est l'idée de la couleur du leader. C'est la couleur de la victoire, de l'excellence. Malheureusement, aujourd'hui, le jaune conserve beaucoup de marques de ces siècles de discrédit. Évidemment, on a toujours recours à sa capacité à attirer le regard. Hein. C'est la couleur des boîtes aux lettres, il symbolise toujours la joie. On l'utilise dans beaucoup d'occasions de fêtes. C'est aussi celle de l'énergie, on utilise pour emballer les médicaments qui donnent du tonus. Mais on est encore dans beaucoup d'aspects négatifs, c'est l'horreur de l'étoile jaune, le jaune cocu, le rappel à l'ordre incarné par le carton jaune au football. Et dans le monde ouvrier, c'est le briseur de grève qui est traité de jaune. Enfin, le jaune reste très ambivalent. Je pense que le meilleur exemple qu'on puisse donner de cette ambivalence vécue dans un même instant, c'est le théâtre traditionnel de Pékin qui se joue toujours actuellement, où les acteurs se maquillent de jaune pour indiquer la cruauté, le cynisme, alors que les costumes, eux, sont traditionnellement en jaune quand il s'agit des princes et des empereurs, parce que là, ils indiquent non pas la psychologie, mais la condition sociale.
Attention, c'est subtil. Hein. Il faut vraiment être introduit dans ce théâtre hein, pour en suivre les subtilités. Comme quoi, le jaune, c'est aussi quelque chose de subtil, comme vous allez nous le dire pour toutes les couleurs de la palette, d'ailleurs. Hein, parce que toute votre approche est très intéressante, parce qu'elle nous enseigne à la subtilité des couleurs.
Oui, et bon, notamment là, pour beaucoup de couleurs, ces couleurs sont souvent ambivalentes. Et là, en Occident, on voit que c'est le reflet de tout ce qu'on a dit, puisque celle vient quand même en dernière couleur citée dans les préférences, après le bleu, le vert, le rouge, le blanc et le noir.
Alors, Béatrice, quelques mots pour conclure après ce jaune si éclatant ?
Eh bien oui, vivons dans le jaune, parce qu'il est tout à la fois clarté, puissance, éclat, joie, et même s'il est quelquefois maladie, traîtrise, eh bien on peut résumer tout ceci par la phrase de Kandinsky : le jaune est la plus divine en même temps que la plus terrestre des couleurs.